Bienvenue sur Point de sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Blaise.
Salut Marie, ça va ?
Ouais, ça va. Je suis bientôt en vacances. Et
ouais,
je pense que ça va
bien
se ressentir dans cet épisode.
C'est
je préviens et je suis absolument pas désolée de ça. Aujourd'hui, pour le 13e épisode de Point de sauvegarde.
Waouh, déjà ?
Ouais, déjà, et chiffre qui ne nous portera pas malheur, j'ai décidé. On va changer.
En plus, on est vendredi.
On enregistre ça un vendredi, mais
aïe,
pas
aïe,
vendredi 13 par contre.
Aïe, 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 un chat noir vient de passer dans le bureau.
Quelle catastrophe. Oh, le chat noir.
Quelle catastrophe.
Nous sommes à nouveau deux, contrairement à ce que j'avais promis dans l'épisode Ghost of Tsushima.
Ouais.
Apparemment, Franck a du travail, enfin moi aussi, toi aussi, mais Franck nous a quand même abandonnés. Donc on est à nouveau deux, et comme on en avait un peu marre de parler d'un jeu auquel on avait joué à deux, et surtout en fait comme on avait deux trames d'épisodes prêtes pour en parler à trois, on a décidé qu'on allait les laisser de côté pour quand Franck sortira de sa grotte de travail, je
ouais.
ne sais pas quand. Est-ce qu'un jour on reverra Franck ?
Le long tunnel, ouais.
Oh, c'est un long tunnel. J'espère qu'il les écoute et qu'il nous entend bâcher sur lui. Vraiment, j'ai hâte. Donc, on va changer un petit peu la formule. Et on a décidé de présenter deux jeux,
ouais.
cette fois. Un jeu auquel j'ai joué et auquel tu n'as pas joué.
Ouais, c'est
et
ça.
Et ensuite, un jeu auquel tu as joué et auquel je n'ai pas joué.
C'est ça, l'idée c'est juste de se présenter un coup de cœur, un truc auquel on a joué, dont on avait envie de parler à vous et à nous quoi.
Tout à fait, bah du coup ça va être un peu une partie où je vais parler et une autre partie où toi tu vas parler, puis on échangera quand même entre les deux jeux, nos impressions sur les jeux auxquels on n'a pas joué, mais on va essayer de se motiver l'un l'autre à jouer à ces jeux-là.
Marie, alors tu vas nous parler de Spiritfarer, un jeu indépendant qui est sorti sur Switch et qu'on a sur Switch, si je me rappelle bien.
C'est exactement ça. Comme il faut bien parler d'autres choses que des jeux vidéo Sony.
Oui, c'est vrai, parfois.
Encore que ce jeu est sorti sur PS4 aussi.
Ouais.
Mais nous, on l'a sur Switch, donc on va parler de la version sur Switch. Et puis je suis la seule à vouloir défendre cette console, voyons, c'est bien connu. Non, c'est pas du tout ça, mais je dramatise parce que encore une fois, je suis en vacances dedans. Un peu plus de 24 heures et vraiment, j'ai besoin de vacances. Donc, je vais dramatiser comme j'aime le faire. Donc, je vais effectivement vous parler de Spiritfarer, comme tu l'as si bien dit, Blaise. C'est effectivement un jeu vidéo indépendant qui a été développé par Thunder Lotus Game. Il est sorti en 2020 dans sa version dématérialisée et il a eu le droit à sa version physique en 2021.
D'accord.
Voilà. Je vais parler rapidement de Thunder Lotus Game, rapidement parce que de toute façon on va pas y passer 20 ans, et aussi rapidement parce que le studio est assez jeune finalement.
Ouais.
Il a été fondé en 2014 par Will Dubé. On n'en connaît pas trop en fait,
ouais.
On sait pas trop plus parce que je pense que tout simplement le studio est assez sain et n'a pas de casserole aux fesses comme
ouais.
d'autres studios, donc c'est l'avantage peut-être, je pense. Will Dubé, il travaillait dans un studio de jeux mobiles et puis il l'a quitté pour lancer le jeu Jotun.
Ok, ah oui, donc
ouais.
Ils ont fait Jotun avant.
Exactement, okay. Jotun qui est sorti en 2014 et qui a été financé par un Kickstarter. Et c'est un jeu qu'on a également à la médiathèque
ouais.
sur le Steam Deck. Vous savez, le Steam Deck qu'on a dit il y a des mois de ça qu'en avril il serait disponible à la médiathèque et qu'en fait il n'est toujours pas disponible à la médiathèque, mais bientôt, vous inquiétez pas.
Avril 2024 peut-être.
Cela dit, on n'avait pas donné d'année, donc
non, c'est non, vrai mais que bientôt.
On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour avancer, je vous le promets. Donc Jotun, ça a été quand même un assez gros succès parce qu'en fait il a été vendu à plus d'un million de copies.
Ouais, quand même. Ouais.
Un premier jeu. Bon,
un
alors
premier
ça,
jeu indépendant,
mais bon. Le financement a dépassé les attentes, j'ai plus les chiffres, mais c'est sûr que ça avait dépassé les attentes de Will Dubé, du coup.
Mmh.
Donc c'est quand même assez conséquent. Et l'avantage, c'est qu'avec un nombre aussi important de copies vendues, bah, ça a permis au studio de pouvoir continuer sur sa lancée. Donc après Jotun et ce succès, donc Jotun c'est quand même un jeu d'action-aventure, le studio va sortir un autre jeu avec Thunderhead, toujours un jeu d'action-aventure, en 2017.
Ouais.
Pas du tout entendu parler de ce jeu pour ma part.
Aucunement aussi, c'est bizarre parce que c'est vrai que Jotun était un peu plus connu. Mais Thunderhead, ouais, je sais même pas à quoi ça ressemble.
Ouais, j'ai vu le logo du jeu, enfin le visuel du jeu, je me suis dit, bah, je ne sais pas du tout.
Okay.
Bon bref, pas du tout dans ma bibliothèque à attendre que j'y joue, à l'inverse de Jotun. Et donc ensuite, ils vont nous sortir Spiritfarer, où il y a toujours une partie d'aventure plutôt.
Ouais, un peu plateforme.
Mais il y a aussi un côté plateforme, et puis surtout, plus important que le côté plateforme, il y a un côté gestion,
ouais,
qui est très très important. Donc ça c'est le dernier jeu du studio. J'ai plus en tête s'ils ont des choses prévues prochainement, mais certainement. Enfin, je pense qu'ils continuent leur petite vie. Et puis le studio a quand même pris de l'ampleur parce que de Will Dubé en Dubé ou Dubé, je sais pas comment on dit, en 2014, ils sont passés à 16 employés aujourd'hui d'après Wikipédia.
Oui, d'accord. Oui, donc c'est vraiment devenu un vrai studio indépendant, ouais, important et ok.
Qui a sa petite équipe, son petit site tout mignon, et okay, ouais, c'est la bonne entente et machin, ouais, et trucs et bidules.
Non, bah c'est cool.
On leur souhaite de continuer comme ça. Du coup, après le petit tour du studio, parlons un peu plus du jeu quand même, parce que c'est
ouais,
ce pourquoi...
Ouais, bah c'est quoi exactement, ouais, Spiritfarer.
Donc parce Spirit, ouais, vas-y.
Ça avait l'air intriguant, je trouve. Enfin, le jeu est intriguant, on sait pas trop ce que c'est. Je trouve que même de l'extérieur, on dirait pas vraiment que c'est un jeu de gestion.
Mm-hmm.
Et puis en plus, je crois que ça aborde des thématiques un peu plus... sombre que ce que ça donne à voir, en tout cas de l'extérieur.
Tout à fait. C'est vrai que visuellement, le jeu est extrêmement mignon. Moi, j'en ai un vague souvenir quand il a été présenté, d'avoir ce côté, on a un personnage sur un bateau. Le personnage, c'est Stella. Elle est accompagnée de son petit chat. Et, ouais. et c'est très coloré, c'est très joli, c'est très bon enfant. Sauf que, assez vite, dans le trailer, il nous explique que le jeu va aborder la mort. Et effectivement, Spiritfarer, c'est un jeu dont la thématique principale, c'est la thématique de la mort. Spiritfarer, ça veut dire passeuse d'âme.
Okay, ouais.
Et Stella est une passeuse d'âme. Son rôle, c'est d'aller chercher, donc sur la map qui nous est donnée dans le jeu, d'aller chercher les âmes en perdition, enfin en tout cas les âmes qui doivent ensuite être menées au seuil éternel, et donc de les aider, en les prenant sur son bateau, à atteindre leur dernière quête. Donc sous des airs très mignons, très jolis, et un jeu qui est Peggy 12 et donc à partir de 10 ans chez nous, ouais, c'est vrai qu'il aborde des thématiques qui sont quand même pas spécialement, pas joyeuses en fait.
Pas joyeuses,
ouais. C'est la fin de la vie, selon les sensibilités des uns et des autres, ça peut être quand même assez, assez compliqué. Et donc elle, c'est... Effectivement, donc le jeu est plutôt mignon, mais avec une thématique assez sombre, mais en fait au final, au lieu d'être glauque ou triste comme on pourrait s'y attendre,
ouais,
il se veut assez enjoué le jeu, et en fait il y arrive même,
ouais,
qu'il y arrive, et surtout il y a ce côté très oui, la mort est une finalité, hein, quand tu les amènes au seuil éternel, c'est fini, ils sont plus sur ton bateau, ces personnages là mais il y a ce côté très t'as passé du temps avec eux, t'as appris à les connaître, tu les as aidés à accomplir leur dernière quête, parce que souvent ils viennent sur ton bateau, mais en fait avant qu'on les amène, il faut aller régler des histoires avec un autre personnage,
il faut régler leur dernier problème, et puis après ils peuvent s'éteindre,
tout à fait, okay, voilà, il y a les trucs assez il peut y avoir des j'ai perdu tel objet à tel endroit, mon dieu je me rappelle de ça mais je me souviens plus, je connaissais quelqu'un, moi ce que j'aime c'est le partage, est-ce qu'on pourrait faire un grand dîner sur le bateau, trouve quels sont leurs plats préférés, et donc
d'accord,
il y a ce côté très découverte des autres personnages, apprendre à les connaître, il faut leur donner de la nourriture aussi, donc là on arrive plus dans la partie gestion,
ouais,
du
okay,
jeu, où tu vas avoir des cultures sur ton bateau, tu peux avoir des moutons, enfin tu peux avoir plein de choses, t'as une forge, t'as vraiment plein de choses,
ouais,
sur le bateau.
Parce qu'en fait
fin,
pour l'instant, si je comprends bien, ça se passe sur un bateau,
ouais,
et tu accueilles les gens, ok, tu accueilles les âmes du coup des gens sur,
exactement,
ton bateau, et tu dois les emmener dans l'au-delà, quoi.
Exactement.
Okay.
C'est exactement ça. Et alors ils sont tous sous forme d'animaux. Les,
d'accord.
Les,
ouais,
âmes sont toutes sous forme d'animaux. Donc tu as un gros crapaud, tu as un lion, tu,
ouais,
as un cerf.
Oui,
le
c'est
lion
pour ça que c'est un peu mignon de l'extérieur.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Le lion est insupportable d'ailleurs. Il s'appelle Giovanni et.
Ah oui, c'est fait pour.
Giovanni, et il est insupportable, vraiment, le lion,
okay,
il est toujours là, il dit oh « Non, mais j'ai rien envie de faire, moi ce que je veux c'est me prélasser », et on apprend qu'il a plein de conquêtes, et toutes elles sont « Ah oui, c'est mon amoureux !» Je crois que vous n'êtes pas au courant des autres, mais il est vraiment,
d'accord,
il est insupportable,
ouais,
ce lion. Et oui, il y a un côté très très enfantin dans la représentation des personnages, je pense que c'est voulu de toute manière,
ouais,
pour éviter... D'ailleurs, ils sont représentés sous forme d'animaux, mais dans leurs souvenirs, des fois, c'est des humains.
D'accord, ouais. Donc là, c'est vraiment qu'une espèce de forme spirituelle,
exactement.
Quoi. Ouais, ok.
Et spirituel, Spiritfarer, y a... Attends, qu'est-ce que tu crois, hein? Et donc, au fur et à mesure de nos voyages, nous, on est sur la mer, hein, évidemment, enfin sur une grande map, il y a plein d'îles, donc on va découvrir des nouveaux lieux, on va pouvoir récupérer des ressources, que ce soit des arbres, des fruits, des métaux aussi, plein de choses comme ça. Il y a des quêtes principales, celles de nos personnages. Il y a combien d'âmes en tout? Il y a 16 âmes? Je crois qu'il y a 16 âmes à ramener, j'ai un doute là maintenant. L'extension, parce qu'il y a un DLC gratuit qui est arrivé ensuite, qui en a rajouté 2 ou 3.
Ok.
Mais entre 10 et une quinzaine d'âmes.
Ok.
On va dire. Et puis, encore une fois, faut donc accomplir leur quête pour les amener au seuil éternel. Et puis surtout, comme dans des jeux comme ça, un peu de gestion, au début, donc t'as ta petite zone où tu navigues, hein, on dit d'aller au point A, au point B. Puis en fait, au fur et à mesure, faut que t'ailles à de plus grands endroits, mais tu vas pas pouvoir y aller si t'as pas amélioré ton bateau, parce qu'il faut traverser la roche, et donc pour ça il faut faire l'amélioration du bateau qui va te permettre de traverser la roche. Tu peux pas aller non plus à tel endroit parce que il fait nuit, et donc il te faut une lampe sur ton bateau pour passer. Au nord il y a des glaces, il faut pouvoir traverser la glace et donc faire cette amélioration là. L'amélioration, elle coûte des bras. Franchement, c'est un requin qui permet d'améliorer.
Un requin en animaux.
C'est un requin animal qui est un requin financier. D'accord. C'est vraiment, je pense que c'était voulu.
Ouais, ouais.
Et donc, chaque fois, ça coûte super cher. Donc, faut faire plein de quêtes à côté pour récupérer des thunes. Tu peux revendre de l'argent, revendre des ressources, tout ça. Et puis, tu peux en créer sur ton bateau, parce qu'encore une fois, sur ton bateau, tu peux avoir des vergers, des jardins, un potager. Donc, avoir des fruits, des légumes qui poussent. Et ensuite, tu peux, soit les utiliser pour faire des repas.
Ouais.
Pour tes personnages et découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Y en a, ils sont insupportables, franchement. Y en a, non, j'aime que les plats raffinés. Désolé, j'ai qu'une bouillabaisse, donc mange une bouillabaisse, tu vois. Non, ils voulaient pas, donc j'ai dû aller pêcher des crevettes pour lui faire un cocktail de crevettes.
T'as l'air d'avoir passé un bon moment, en tout cas.
Non, si, en vrai, j'y ai passé vraiment beaucoup d'heures, un peu comme lorsque je commence Stardew Valley, qu'il est 9h du matin, et que d'un coup il est 21h et que je me rends compte que j'ai pas mangé, mais que j'ai passé beaucoup d'heures sur Stardew Valley. Spiritfarer, c'était un peu pareil.
Ouais,
c'est ce genre de jeu.
Ouais.
C'est là, là, je vais encore continuer un petit peu parce que si j'arrive là, je vais pouvoir récupérer telle ressource et puis du coup, je vais pouvoir accomplir telle quête de tel personnage. Et voilà. Les personnes nous demandent aussi d'avoir leur propre logement, donc pareil, il faut rassembler les ressources pour. Et puis, quand les quêtes sont accomplies, il faut les accompagner au seuil éternel. Ça se termine souvent sous des trucs un peu déchirants, quelques discussions. J'ai beaucoup aimé ça, et merci d'avoir fait ça pour moi, et tout. Une grande scène très émouvante. Et puis, on a des petites scénettes qui nous parlent de la vie de Stella aussi.
Okay.
De ce qu'était son passé.
Est-ce que le personnage que t'incarnes, c'est quoi dans l'histoire du jeu? C'est une âme aussi, ou c'est...
Là, je peux pas spoiler, parce qu'après on en découvre plus sur elle. C'est la nouvelle passeuse d'âme, donc qui est arrivée là, et qui, donc, son nouveau travail, c'est de faire passer les âmes, mais elle a son histoire aussi, qui se découvre au fur et à mesure, quand justement on amène ses âmes au seuil éternel, on en découvre un peu plus. Alors, j'ai un doute que j'ai pas su résoudre. J'ai l'impression que plus tu accomplis de quêtes, parce que donc les personnages ont leur quête principale, et puis des fois t'as des petites quêtes annexes, et surtout quand tu fais en sorte qu'ils soient bien sur le bateau, si tu leur donnes les plats qu'ils veulent, si tu décores bien leur logement, etc. J'ai l'impression que plus tu as une affinité avec eux, et plus, en arrivant au seuil éternel, t'avais de scénettes concernant Stella, parce que des fois, en amenant des personnages, j'avais des scènes qui parler de Stella, et des fois non.
Oui, donc t'as intérêt en fonction de la relation que tu tisses avec les personnages.
Ouais.
En tout cas, t'as intérêt à tisser de bonnes relations pour en apprendre plus sur ton propre personnage et avoir plus d'histoire.
Donc j'ai pas eu exactement le détail, j'ai pas su déterminer si c'est prédéfini. À l'âme 1, à l'âme 3, à l'âme 8, tu vas avoir des...
Ou si c'est vraiment en fonction de toi.
Donc quoi qu'il arrive, moi j'ai peut-être pas eu toutes les scénettes, mais j'ai quand même compris l'histoire de Stella, c'était pas un souci pour ça. Et puis après, le jeu, vu qu'on est en pleine mer, tu vas croiser des fois des tempêtes, d'autres fois... Enfin, il va y avoir des petits éléments, des petits éléments sous forme de mini-jeux.
Ouais,
des petits événements, pardon, sous forme de mini-jeux qui vont te permettre de récupérer d'autres ressources et événements que tu peux ou pas zapper si jamais t'as pas envie et tout. Donc voilà, on peut croiser des tortues géantes sur lesquelles on peut leur donner des ressources pour qu'elles les multiplient. C'était un peu étrange ces tortues d'ailleurs, vraiment elles étaient cheloues franchement. Mais ce que je disais aussi, bah les améliorations de bateaux qui vont pas être négligeables pour traverser glace et barrières rocheuses. Et puis en plus de des éléments de gestion, on va retrouver quelques éléments de platformer. C'est pas Céleste, hein. Je préviens tout de suite, on n'est pas sur Céleste, c'est pas du... Mais c'est vrai qu'on est sur un jeu en 2D, et puis bah on va avoir un bateau sur lequel on va pouvoir mettre différents éléments, mais en fait pour passer d'un élément à un autre, bah on peut mettre des tyroliennes des plateformes, des parasols sur lesquels tu sautes pour monter et tout.
En fait, c'est le bateau qui est en plateforme, enfin qui est en 2D plateforme, et on se déplace dans le bateau en plateforme.
Quoi. Exactement. En fait, même sur les îles, parce que c'est vrai que j'avais pas parlé de ça. Stella a des pouvoirs qu'elle peut débloquer au fur et à mesure. Donc, il faut trouver un certain nombre, ce qu'ils appellent des oboles, qu'on va amener ensuite sur des hôtels, et ça va nous débloquer des pouvoirs.
Okay.
Donc le pouvoir, elle a un dash, si je me souviens bien.
Mais c'est essentiellement des trucs de déplacement, du
coup. Ouais, c'est que des trucs de déplacement, d'aller plus vite, etc. Et ça nécessite des fois quelques sauts et quelques techniques de voir. Ah oui, parce qu'en plus, donc c'est en 2D, et puis des fois tu dois aller tout en haut, sauf que toi t'as l'impression que le passage c'est par là, et en fait non, il faut sauter. Ensuite tu vas sur la droite, ensuite tu sautes, il faut que t'aies le grand saut pour pouvoir aller jusqu'en haut.
D'accord.
Donc des fois j'ai eu des moments très frustrants de. J'ai vu
donc en fait, il y a quelques éléments de ton bateau que tu peux débloquer que après avoir débloqué certains. Il y a un côté, un peu Metroid,
Ouais, voilà. C'est très très léger, hein.
Ouais, mais c'est un petit élément en plus, quoi.
C'est un petit truc de découvrir ce milieu-là aussi de platformer, voilà. Donc tout ça, moi c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup d'heures. Je l'ai pas terminé à 100% pour autant.
Oui, bah après. Quêtes,
Des fois, il y avait des trucs, faut aller chercher les quêtes à l'autre bout du monde. Mmh. Tu sais pas que c'est là, en fait. C'est un peu, et là, du coup, on arrive sur la partie un peu plus reproche du jeu.
Ouais.
Je trouve qu'il est, cool, mais il est très verbeux déjà. Il y a évidemment, il y a toutes les histoires des personnages.
Beaucoup de dialogues, ouais. Faut être prêt à passer du temps dans des dialogues, ouais.
C'est ça. Donc, faut beaucoup lire les dialogues et tout. Et il y a quand même une quinzaine de dames qui monte sur le bateau, plus celle que tu vas croiser sur les îles différentes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de textes, et il y a eu des fois où j'étais, en fait, là, ton histoire perso, c'est pas que je m'en fiche, elle a l'air intéressante, mais viens, on va un peu plus vite, hein. Ok, c'est bon? Ok, super. Donc, il y a ça, et puis il y a ce côté aussi, on est très lâché. Et donc, des fois, je me suis retrouvée un peu coincée de, donc, pour débloquer telle amélioration de mon bateau, il me faut tel truc. Sauf que je ne sais pas comment l'avoir.
Ok. Ouais.
Et du coup, j'étais ok. Donc, comment est-ce que je sais ? Et finalement, je le savais parce que, en cherchant un peu sur le wiki, je découvrais que c'était un mini-jeu qui était accessible avec tel personnage, et qu'en fait, ce personnage, pour le débloquer, il fallait que je pêche une graine spéciale.
Oui.
Qui ensuite, quand je la plantais, débloquait le personnage. Et j'étais, mais comment est-ce que je peux le savoir ?
Ouais, donc des fois des chemins pour accéder à des trucs qui sont pas forcément clairs et qui te font un peu tourner en rond, quoi.
Qui je trouve dissonnaient un petit peu avec le côté très enfantin du jeu.
Ouais.
Et il y avait ce côté un peu, beaucoup de recherche finalement, comment avoir telle info, enfin comment créer telle ressource. Mais en fait, moi je joue pas mal au jeu, mais en fait j'étais pas du tout dans cette optique-là en jouant à ce jeu. Et du coup j'étais, comment est-ce que vous voulez que je le sache finalement? Vous me donnez plein d'éléments sur plein d'autres trucs, et là, vous m'expliquez pas.
Ouais, là, le truc est flou,
Ouais, il y a même pas un petit truc de, je sais pas, t'as la ressource et t'as une aide dessus qui va te dire, vous devriez pêcher, et du coup, t'aurais pêché une graine spéciale, et du coup, tu te dis, ok, j'ai une graine spéciale, bon, je vais la mettre dans mon verger, et je vais voir dans mon jardin, et je vais voir ce que ça donne. Et là, il y avait même pas ces petites infos, et je trouvais que là-dessus, des fois, c'était peut-être un peu trop lâché.
Ouais.
Pour le personnage, pour le joueur, et du coup ça menait au truc de, est-ce que je suis sûre d'avoir terminé toutes les, enfin pas toutes les quêtes, mais est-ce que je suis sûre d'avoir trouvé tous les personnages finalement?
Ouais.
Est-ce que j'en ai pas raté à droite et à gauche? Est-ce qu'il fait partie d'une âme? Est-ce que c'est pas une âme?
Voilà, ouais, côté un peu flou sur des trucs. Exactement. Qui donne l'impression d'avoir laissé de côté des trucs sans faire exprès ou des choses comme ça. Ouais.
Alors qu'en fait non. Mais voilà, c'était un jeu plutôt cool. Moi, okay. J'ai passé une trentaine d'heures, je dirais.
Donc, ouais, c'est ouais, pas mal quand même.
C'est
ouais.
Une durée de vie plutôt c'est sympa. Plutôt cool. Enfin, j'ai dû faire ça en 2 ou 3 semaines parce que je voulais absolument le terminer avant la sortie d'un autre jeu. et ouais, moi j'avais passé un bon moment et je suis contente quand je vois sortir à la médiathèque parce que je me dis que je sais qu'il y a déjà eu le cas d'ados de 10-11 ans qui disent ouais, il y a beaucoup de textes, du coup j'ai un peu abandonné, ouais. Ce que je peux comprendre. Mais il faut pas hésiter à, éventuellement à le prendre et à le prolonger pour le coup, pour ouais, l'avoir pour sur 2 mois et tout, quitte à y revenir okay. Plusieurs mois plus tard. Voilà.
Ok, très bien. Bah merci.
Comme on disait, chacun va présenter un jeu et du ouais. Coup Blaise, c'est ton tour de nous présenter le jeu dont tu veux parler. Il me semble que c'est un jeu ou même plusieurs jeux d'une franchise.
Ouais. Bah alors on était parti sur faire des jeux Switch, donc j'ai fait un jeu Switch et je vais parler un peu de Monster Hunter Rise et du coup un petit peu de la série, mais surtout de Monster Hunter Rise pour le coup en l'occurrence qui est dispo sur Switch à la médiathèque. Donc Monster Hunter, c'est une série de jeux vidéo japonais enfin la série a commencé en 2004 sur PS2 avec le premier ah ouais Monster Hunter. Ouais.
C'est que en 2004?
Hein?
C'est que en 2004?
Que en 2004. Ouais. Ok, moi je. Oui, c'est vrai que ça paraît être un truc un peu ancien, mais en fait c'est un jeu qui est sorti. Qui a commencé en 2004 et en fait c'est un jeu qui a toujours été un jeu en 3D oui. Sur des enfin sur action RPG 3D machin, et je crois même que dès le premier épisode il y avait déjà des fonctionnalités en ligne. Donc en fait le jeu est vraiment sorti conçu pour les fonctionnalités en ligne, l'action 3D machin. C'est pas une vieille série qui a été un peu réactualisée. Oui. Quoi. Et donc c'est développé par les studios de Capcom. Donc Capcom, hein, si vous connaissez pas, c'est Street Fighter, c'est Resident Evil, c'est Mega Man, c'est tous ces trucs-là qui sont des classiques hein, du jeu vidéo et du jeu vidéo japonais. Donc la série, comme je disais, la série de jeux Monster Hunter commence en 2004 sur PS2 et après ça déroule parce qu'il y a plein de jeux qui sortent sur plein de consoles différentes, donc sur PSP, sur Wii, sur Wii U, sur.
C'est où?
Sur PS3, non pas PS3, mais en gros Nintendo DS aussi et 3DS.
Ouais.
Et en fait, t'as plein de jeux comme ça qui sortent sur les consoles, du coup, surtout japonaises, parce que c'est une licence au départ qui est quand même très niche.
Ouais.
Avant le dernier, du coup, le gros changement avec Monster Hunter World, c'est une licence qui est très niche et très japonaise, en fait, donc qui sort sur des consoles qui se vendent beaucoup au Japon, donc les consoles portables et notamment la Nintendo 3DS, la PSP. Et aussi du coup la Wii. Et j'ai vu un truc rigolo, c'est que je crois que le deuxième épisode ou le troisième, non, ça doit être le troisième épisode, était prévu à la base de sortir sur PS3 et qu'en fait au dernier moment ils ont choisi de le sortir sur Wii parce qu'ils ont considéré que qu'il fallait que le coût du développement était trop important et que du coup il fallait absolument le sortir sur Wii.
D'accord.
Ce qui semble un peu aberrant de se dire qu'à une époque la Wii c'était la console sur laquelle il fallait sortir les jeux parce que c'est la console où il y avait le plus de monde qui l'avait et du coup c'était la console la plus intéressante, alors que la PS3 personne n'en avait et ça coûtait une blinde.
Ok.
Donc c'est des trucs de l'époque quoi. Et donc ils ont sorti, comme je disais, sur des jeux sur à peu près toutes les plateformes et la dernière grosse sortie le dernier gros jeu avant Monster Hunter World, c'était Monster Hunter New Generation Monster Hunter New Generations sur 3DS.
Okay.
Et donc la première version est sortie sur 3DS et après il y avait eu une version Switch au moment de la sortie de la Switch en 2017, mais qui était pas vraiment une vraie version Switch, c'était une espèce d'adaptation de la version Switch. Enfin, de la version 3DS sur la Switch. Donc ça restait un jeu 3DS dans les mécaniques. Donc je parlais un peu là depuis tout à l'heure aussi de Monster Hunter World, qui est un peu le gros changement dans la licence Capcom, enfin dans la licence de Capcom Monster Hunter. En fait, c'est l'ouverture aussi à un marché international, parce que je crois que c'est pour moi c'est le premier Monster Hunter qui sort sur Xbox par exemple. enfin okay. sur console Microsoft quoi.
Ouais, et
et en fait le jeu sort sur PS4, sur Xbox et un peu plus tard sur PC avec vraiment une ouverture à l'international hyper poussée et notamment permise par les consoles les nouvelles consoles, donc les PS4 à l'époque, les consoles nouvelle génération de l'époque. Donc ça c'était en 2018. Et le jeu cartonne de ouf en fait, parce que pour le coup plein de gens découvrent la licence avec Monster Hunter World. Les fonctionnalités en ligne sont super bien pensées, tout fonctionne très bien. Le jeu arrive avec plein de nouvelles idées, un cycle jour-nuit. Des zones plus ouvertes et moins renfermées les unes dans les autres avec beaucoup de temps de chargement, donc vraiment Monster Hunter qui passe au jeu vidéo moderne, parce qu'en fait c'est vrai que sur la génération d'avant, donc la génération Wii U, en fait vu que le jeu était pas sorti sur PS3, on restait quand même sur des performances techniques assez à l'ancienne, voire même, faut dire que le dernier qui était sorti c'était sur Nintendo 3DS quoi. Donc on passe vraiment un cap technique quoi sur le jeu. Et petite anecdote aussi intéressante, j'ai plus le nom du développeur principal du jeu qui a mené un peu ce changement de statut de la licence et qui a mené un petit peu le l'espèce de reboot en fait de la série avec Monster Hunter World. Et en fait c'est un gars qui j'ai plus le nom, c'est un peu dommage, qui était un des premiers fans des jeux de PS2 en fait.
Okay.
Et qui a du coup commencé une carrière dans le jeu vidéo et qui petit à petit est arrivé chez Capcom et a mené un peu petit à petit la licence et voire jusqu'à Monster Hunter World où en fait il a un peu donné un peu les directives sur ce qu'allait être la série et force de constater qu'il avait raison en fait et que il a réussi à amener la série Monster Hunter sur d'autres sphères parce que Monster Hunter World c'est noté par Capcom en tout cas en 2020 16 millions d'unités vendues, ce qui est énorme pour une licence comme ça, et c'est le début en fait d'un nouveau cycle dans les Monster Hunter. Suite à cette sortie de Monster Hunter World, on a eu un DLC, Monster Hunter World Iceborne.
Ouais.
Donc, était une version améliorée. Comme souvent, les Monster Hunter, il y a toujours la version de base et une version supérieure avec plein d'ajouts qui sortent plus tard. Donc là, c'était sous forme de DLC qui s'appelait Iceborne, qui a rajouté une nouvelle zone et des nouveaux éléments dans le jeu. Et du coup, aussi, à la suite de ça, une annonce d'un Monster Hunter sur Switch, donc Monster Hunter Rise, qui est prévu du coup de sortir en 2020. Et grosse attente aussi, parce que c'est une licence qui a eu un gros historique avec les jeux et les consoles portables.
Mmh.
Et vu que la Switch est un peu entre les deux, c'était aussi une grosse attente de voir ce qu'allait donner la série sur sa console, sur la dernière console portable la plus importante, quoi. Donc grosse attente. Le jeu fonctionne très bien au lancement. Les démos sont chouettes. Et l'arrivée aussi dans le développement du nouveau moteur de Capcom, donc le RE Engine, qui a déjà été utilisé pour Resident Evil 2 Remake et tout ça, donc permet au jeu de bien s'adapter sur Switch et surtout d'avoir une technique assez exemplaire. Enfin, pour moi, de tous les jeux que j'ai fait sur la Switch, c'est le techniquement le plus beau, le plus carré et
franchement quand même un vrai boulot quoi.
Et puis parce que le jeu est super beau, les temps de chargement sont vraiment pas énormes. Non, c'est une vraie réussite en tout cas l'arrivée sur Switch est une vraie réussite. Ils ont vraiment réussi à penser leur jeu de manière à ce que la Switch puisse le faire tourner vraiment correctement et vraiment décemment quoi.
Qui a joué en version portable et en version
alors comme d'habitude c'est souvent un peu plus joli sur la version portable que sur la version projetée sur l'écran parce qu'évidemment que la résolution est un peu distendue du coup sur l'écran, mais franchement les deux sont cool. Les deux sont cool,
c'est pas genre comme Pokémon Arceus
non c'est vraiment quali hein. Franchement je vous invite à regarder un peu des images, franchement si c'est vraiment le top du top je pense de ce qu'on peut faire sur Switch. Donc toujours dans cette volonté de faire évoluer la série vers quelque chose de plus dynamique, là dans Monster Hunter Rise, la grosse nouveauté du titre c'est d'apporter dans les combats un élément qui s'appelle le phylloctère, qui est un espèce d'insecte qui nous permet de tendre des fils pour nous projeter en l'air. Mm-hmm. Comme si on avait un peu à la manière d'un Spider-Man ou d'un de l'attaque des Titans peut-être, si on voit un peu. En fait, on peut se grâce à des câbles se projeter en l'air, et ce qui va amener beaucoup de gameplay un peu aérien et beaucoup de trucs nouveaux, et qui va accélérer drastiquement aussi les déplacements dans le jeu, ce qui est vachement cool, et qui va dynamiser vraiment le jeu, qui est à la base vraiment un jeu plutôt lent, et là ça va vraiment l'accélérer. Il y a aussi un ajout d'un compagnon qui s'appelle les palicots, qui sont des chiens en fait, des grands chiens sur lesquels on peut monter, mm-hmm. et qui pareil vont accélérer les déplacements, parce qu'on va pouvoir se déplacer à dos de chiens du coup. Mais ils sont grands,
palico, hein. Attends,
c'est pas des
palico.
Petits chiens. Donc ouais pareil, donc toujours une volonté de dynamiser le truc et de rendre le jeu aussi de plus en plus accessible,
mm-hmm.
parce qu'en fait on part d'un jeu très niche au départ qui va petit à petit s'ouvrir et devenir de plus en plus accessible à tout le monde, et World et Rise sont vraiment l'exemple de l'ouverture du jeu au grand public. Donc ça, je pense que Rise aujourd'hui c'est la meilleure porte d'entrée dans la série si on a envie d'essayer. Donc je vais rentrer maintenant peut-être un peu plus en détail sur c'est quoi Monster Hunter, parce que là pour l'instant j'ai décrit un petit peu les sorties et tout, mais pas vraiment le principe du jeu. Donc le principe, je pense qu'il n'y a rien de plus simple en termes de mécanique de jeu, même par rapport au titre, vous allez vite comprendre. En gros, c'est un jeu de chasse de monstres. Ok.
Monster Hunter, juste là, ça va.
Et en fait, le principe du jeu, c'est tout simple. Donc, c'est vraiment un action RPG. Donc, l'idée, c'est qu'on a un personnage, ça se joue à la troisième personne, c'est de l'action en 3D, où on doit, du coup, chasser des monstres. Qui vont nous rapporter des ressources, donc on va pouvoir choper leur poil, leurs dents, leurs griffes, leur peau. Ça va nous permettre de nous fabriquer des nouvelles armes et des nouvelles armures plus puissantes,
mm-hmm.
et on va pouvoir du coup chasser des monstres plus puissants. Et l'idée, c'est toujours de grimper en puissance de monstres.
Ouais, donc vraiment le RPG d'action de base, quoi.
Ouais,
base.
Non, mais c'est à un niveau zéro. L'histoire dans les jeux, généralement, c'est vraiment oh mon dieu, les monstres deviennent fous, ils sont corrompus par une créature encore plus maléfique, il faut tous les tuer pour sauver le village et tuer la créature maléfique.
C'est très Capcom finalement.
Ouais.
Hein.
Mais c'est vraiment un contexte quoi. Le but du jeu, c'est évidemment pas de suivre l'histoire. Si vous aimez les histoires dans les jeux vidéo, faut pas jouer à Monster Hunter.
Mais là, c'est plus le côté se développer, voilà, améliorer ses compétences, améliorer ses armes, son matériel finalement, et pour aller voir des monstres beaucoup plus gros
de plus
que
en plus fort,
les petits du début.
C'est ça. Et en gros, et chaque monstre va avoir évidemment des caractéristiques, hein. On a des monstres de poison, des monstres de feu, des dragons, des lézards, tout un tas de monstres différents. Je vous invite pareil à aller checker vite fait les monstres de Monster Hunter. Vous allez en voir plein de formes différentes, plein de couleurs, plein de mouvements. Enfin, c'est assez chouette en fait, parce que bah finalement il y en a plein, ils sont super beaux, même si on les chasse en vrai. Mais c'est eux les stars du jeu en vrai.
C'est un peu comme Pokémon, tu vois, ils sont mignons, mais en fait finalement on fait que les chasser, quoi. Tu dis bah ouais, enfin, d'un point de vue moral, éthique.
C'est un peu pareil, quoi qu'au moins Monster Hunter on les chasse pour de vrai.
C'est
alors
vrai.
Que Pokémon il y a une espèce d'entre-deux chelou.
On les rend esclaves, c'est peut-être pas mieux. Hein.
Donc voilà, et donc évidemment comme je disais, les monstres vont avoir des caractéristiques. Donc par exemple, si vous chassez un Poké-Poké. Donc ça c'est voilà pour les initiés.
Il y a vraiment un monstre qui s'appelle Pookie Pookie.
Bah Pookie Pookie, ouais, Pookie Pookie. Qui est plutôt un monstre de poison, donc évidemment l'armure que vous allez pouvoir vous forger avec est une armure qui va plutôt augmenter la résistance au poison. Les armes que vous allez débloquer et pouvoir fabriquer avec sont des armes de poison. Donc vous avez du feu, de la glace, de l'électricité et tout un tas de caractéristiques et de statistiques. C'est beaucoup un jeu qui s'inspire aussi de tous les hack and slash.
Mm-hmm.
Donc des jeux qui vont vous demander d'être beaucoup aimer en fait. Optimiser votre personnage, faire des statistiques dans tous les sens, essayer de trouver la meilleure combinaison d'armes et d'armures pour avoir le personnage le plus fort possible. Il y a plein de caractéristiques sur lesquelles on peut influer. Par exemple, notamment dans ce qui est intéressant dans Monster Hunter, c'est qu'il y a donc une caractéristique qui s'appelle l'affinité, qui permet d'augmenter le pourcentage du coup critique. Donc plus vous allez augmenter cette caractéristique, plus vous allez donner de coups critiques, sachant qu'il y a certaines armes qui augmentent elles les coups critiques et d'autres non. Donc L'idée, ça va être de combiner un maximum de choses pour avoir le personnage le plus fort possible. Donc je parle là, du coup, je parle un peu des armes. En fait, c'est un jeu où il y a 12 ou 13, peut-être 14 maintenant, entre en gros une quinzaine d'armes différentes disponibles. Et chaque arme va proposer un gameplay très différent les unes des autres. Ça, c'est vrai aussi une des forces de la série, c'est qu'en fait, quand on joue avec une arme, on doit apprendre mille et une infos sur l'arme, et il y a plein de mouvements, de caractéristiques, de spécificités différentes, et chaque arme va complètement changer l'approche qu'on va avoir d'un monstre, en fait. Et à terme, quand vous êtes très avancé dans le jeu, vous avez quasiment un set d'armes par type de monstre, histoire d'optimiser comment les battre. Par exemple, il y a des monstres qui vont être beaucoup plus sensibles à une arme qui s'appelle le marteau ou la massue, je crois, qui est une arme qui est plutôt contondante, donc qui va plutôt assommer les ennemis. Donc ça va plutôt être des ennemis qui sont en résistant aux attaques tranchantes, donc il va falloir plutôt étourdir. Inversement, il y a des ennemis qui vont plutôt demander des armes tranchantes. Donc tout ça fait partie, comme je disais, encore des caractéristiques sur lesquelles il faut influer et réfléchir pour améliorer son personnage. Donc il y a des armes au contact, des armes à distance, des armes plutôt légères, des armes plutôt lourdes. Donc après, chacun fait son choix dans ce qu'il préfère.
Ouais, bien sûr, ouais.
Et des armes assez faciles pour commencer, et puis après des armes plus techniques, des armes qui se combinent, des armes qui se mélangent. Enfin, vraiment, c'est hyper compliqué, et la maîtrise de chaque arme prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est ça qui est vraiment kiffant, en fait. C'est comment on va à chaque fois apprendre à utiliser une nouvelle arme avec des nouveaux monstres. Donc moi, je trouve que, en tout cas, le temps que j'ai passé sur Monster Hunter Rise est infini. J'ai dû passer 150-200 heures sur le jeu, parce que ça fait partie de ces jeux un petit peu infinis, quoi.
Oui, bien sûr.
Vu que le endgame, enfin ce qu'on appelle le endgame, donc toute la partie où vous avez fini un peu le truc de base du jeu, vous propose de toujours du nouveau contenu, toujours des nouveaux monstres, toujours des nouvelles choses, toujours un nouveau rang à atteindre et des nouvelles choses. En fait, il y a une espèce de forme un peu infinie, puis c'est un vrai jeu de... Après, ça, c'est chacun juge, mais moi, je sais que c'est le genre de jeu qui me relaxe beaucoup, parce qu'en fait, une fois qu'on est dans le flow du jeu, en fait, il y a juste à enchaîner les missions.
Oui.
Et une fois qu'on connaît bien les monstres, en fait, c'est juste un plaisir, parce que chaque monstre, la première fois qu'on les rencontre, va demander de se concentrer. C'est un peu challengeant, c'est un peu difficile au début, et puis petit à petit, quand on les maîtrise, c'est assez kiffant de pouvoir les faire comme ça, limite en faisant autre chose en même temps, parce que en fait, on les maîtrise bien. Donc ça, c'est satisfaisant. Par contre, ouais, faut être prêt à passer beaucoup de temps. C'est des jeux qui sont très chronophages. Je vous parlais du coup des armes et des armures des monstres. Enfin, qu'il faut fabriquer. Parfois, il va falloir tuer un monstre 15 fois avant d'avoir le bon élément pour pouvoir faire son truc. Donc, ça peut être, voilà, ça reste un jeu de beaucoup de, donc on a beaucoup de, qui demande beaucoup de grind, donc de refaire en boucle des ennemis beaucoup. Mais quand on est prêt à passer ce temps, je trouve que c'est une activité. En gros, ça reste une activité, moi, pour moi, hyper relaxante. Et c'est pour ça que j'adore ces jeux-là. D'ailleurs, j'en ai toujours un qui traîne dans ma bibliothèque. Un jeu de ce genre-là, quand j'ai vraiment envie d'éteindre mon cerveau et de me mettre dans un truc, ben je fais ça et du coup, tu t'enchaînes comme ça les trucs. Et c'est assez satisfaisant, ouais. Et Monster Hunter Rise est super pour commencer parce que il est vraiment accessible, quoi.
Ouais. Et parce que tu parlais de nombre d'armes, c'est le genre d'action RPG où tu vas avoir toutes tes armes avec toi et du coup tu peux changer ta disposition d'armes t'as genre des coffres sur ton camp et en fait si tu te retrouves avec un monstre que tu dois tuer avec une arme contondante mais qu'elles sont toutes au camp, demi-tour et à plus, quoi.
Alors, pour pallier à ce problème, déjà quand tu fais une chasse, tu sais quel monstre tu vas chasser.
Ok.
Donc t'as pas d'aléatoire vraiment, dis ok, je lance la mission chasse de tel truc et je vais chasser tel truc.
D'accord, oui. Donc
tu peux te préparer avant et une fois que t'es en mission, t'es un peu laissé, t'es un peu laissé tout seul, quoi. En gros, ça lance la mission, ça te met sur la map où est le monstre. Donc là, il y en a 5 différentes dans le jeu, et enfin 5 maps différentes. Et après, t'arrives sur la map, faut que tu trouves le monstre et que tu t'arrives à le tuer. Mais effectivement, ouais, c'est tout le jeu aussi, c'est de se préparer bien avant, en fonction de du monstre que tu chasses, quoi.
Ok. Ouais. D'accord. Et c'est, alors moi je sais que j'avais tenté Monster ouais. Hunter Rise, que j'avais même pas, je pense, j'avais fait le prologue et c'est ouais. tout. Parce que, moi je me rappelle qu'il y avait énormément de textes. Ouais, vraiment ouais, énormément, ouais. énormément de textes. Et, est-ce que finalement le texte est si nécessaire que ça?
Bah, en fait, c'est un jeu qui, avec plein de mécaniques dedans.
Ouais.
Et c'est ça, dans Monster Hunter, je dirais que c'est ça qui le rend un peu opaque au début, c'est qu'il y a plein de mécaniques différentes. Pareil, qu'en fait, on a un campement dans lequel, enfin là, c'est le village de Kamura.
Ouais, ça
dans lequel, voilà, on va avoir le petit forgeron pour faire les armes, un petit marchand, un petit endroit où on peut gérer nos compagnons, les entraîner. On peut même passer des commandes dans un pays à l'étranger pour recevoir des trucs et envoyer ses compagnons dans okay. des sous-marins chercher des trucs dans un autre pays. Enfin,
ah ouais,
il y a
ouais, ouais,
énormément
ouais,
de choses différentes. Ouais. Et le jeu bah, essaye d'expliquer un peu à quoi sert chaque truc, mais c'est vrai que quand t'as juste envie de commencer le jeu et de jouer, en fait, tu te retrouves avec des pavés de texte hyper compliqués. Moi, je dirais qu'il faut un peu passer au-delà et puis découvrir à son rythme en fait les okay. éléments qui sont dans le jeu. De toute façon, l'avantage de Rise, c'est qu'il n'est pas forcément très difficile au début
mm-hmm.
et qu'on peut vraiment prendre son temps au début pour choisir son arme, découvrir les éléments que nous propose ouais. le jeu, parce que le jeu, il nous met pas directement face à un mur de difficulté où il faut tout de suite être hyper carré dans le jeu et tout comprendre, mm-hmm. quoi. Franchement, on peut prendre son temps au début pour tester les armes.
Ok, ok.
Voilà, je sais pas si t'as d'autres questions. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à jouer à Monster Hunter Rise. C'est un super jeu. Ne serait-ce que pour découvrir Monster Hunter, qui est quand même une licence du jeu vidéo qui est hyper spécifique.
Oui, parce oui,
encore
oui,
une fois, c'est vraiment particulier. Ça ressemble, moi, je trouve, à rien qu'on peut connaître d'autres, parce que c'est, comme une fois, enfin, c'est radical, quoi. Il y a aucune histoire, quasiment aucune histoire, ou alors vraiment, elle sert vraiment de prétexte. Le jeu, c'est vraiment se préparer et chasser, se préparer et chasser, se préparer et chasser. C'est vrai que ça demande beaucoup de...
C'est vraiment un jeu à mission, en fait, finalement.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
C'est vraiment un jeu à mission et avec un objectif quoi ouais. dedans et ouais c'est vrai que moi c'était ce côté un peu verbeux et parfois un peu lourd j'avais trouvé dans le gameplay mais ouais. pas non plus enfin je pense que c'est pas mon style de jeu tout simplement
ouais, ouais. après c'est vrai que ça style, faut être
donc forcément je suis pas enthousiaste non mais je comprends en même temps je sais qu'on en a quelques-uns qui l'ont emprunté déjà et qui sont un peu je peux le prolonger
ouais.
je peux rester
ouais, allez, mais on prolonge. C'est un jeu qui est cool et avec, comme je disais, avec les nouveautés maintenant de Monster Hunter World et Rise, il y a aussi l'avènement de maintenant des wikis sur Internet, des solutions. Là, c'est pas vraiment des solutions, mais des astuces, des aides sur les statistiques, tout ça, qui peuvent aussi amener à plus de facilité quand on appréhende le jeu, parce que on peut, si on se pose la question sur, ok, cette statistique, elle sert à quoi, comment on la développe, ou comment on fabrique tel truc, parce que il faut 1000 objets, mais tu sais pas où les trouver, tu peux aller regarder sur Internet, parce qu'il y a des objets, sur la carte, quand on chasse les monstres, on peut trouver des petits éléments, et ces petits éléments vont nous permettre de fabriquer certains objets ou certains trucs, sauf que des fois, en fait, tu vois dans ta recette qu'il te faut tel élément, sauf que tu sais pas du tout où trouver ça. Et en fait, le jeu compte sur le fait que tu le trouves un peu aléatoirement, mais en vrai, si tu sais pas où c'est, tu sais pas où c'est.
Tu sais pas où c'est, ouais.
Donc là, c'est Internet, les wikis, tout ça te permet un petit peu quand même de faciliter ça en allant directement chercher les réponses quand tu te poses des questions, quoi.
Merci Internet d'exister. On n'a plus besoin d'acheter des magazines de Solus à un prix exorbitant dans les kiosques et dans les magasins et dans les bureaux de tabac pour espérer trouver, savoir où se trouve. L'écaille de tel monstre. Ouais.
Puis c'est bien, ça permet aux développeurs de se concentrer sur autre chose, s'ils ont la flemme de rendre leur jeu compréhensible.
Exactement.
Merci Internet.
Ok, bon bah merci pour cette présentation du jeu, Blaise.
Et de rien, j'espère que ça attirera un peu de monde.
C'est parfait, on a présenté deux jeux en un seul épisode.
Ouais, deux jeux très différents en plus,
deux
donc
jeux
c'est cool,
très
ouais.
très différents.
Mais deux jeux sur Switch.
Parce que vraiment là ça a commencé,
c'est ça,
ça ouais. craignait franchement, ça craint, enfin, ça craint, on présente pas assez de jeux autres que sur Sony. Donc Spiritfarer pour le jeu plus indépendant.
C'est ça ouais.
Et Monster Hunter Rise, sachant qu'on n'a pas que Monster Hunter Rise pour le coup, on a aussi World et Story.
Ouais. Oui, oui, on a Monster Hunter World donc sur Xbox, oui. Donc qui est le reboot dont je parlais, et les Monster Hunter Stories, qui sont des, alors pour le coup, c'est des JRPG qui se passent dans l'univers de Monster Hunter. Donc c'est pas du tout des jeux qui sont vraiment des Monster Hunter au sens gameplay comme je l'expliquais, mais si vous avez si l'univers vous parle et que vous avez pas envie de, que vous êtes plutôt JRPG, il y a les Monster Hunter Stories qui existent.
Donc, des jeux disponibles sur Switch à la médiathèque Maurice Vian, à Chevilly-Larue, que vous pouvez emprunter avec votre carte de médiathèque, on le rappelle. Hein, la carte est gratuite pour les chevilliers, payant pour les hors-chevilliers, nous sommes désolés, mais c'est pas nous qui faisons les règles. Et puis surtout, 2 jeux maximum, n'hésitez pas à venir les emprunter à la médiathèque pour 4 semaines ou un peu plus avec une prolongation. On espère que l'épisode vous a plu. C'était l'épisode numéro 13.
13, le vendredi de l'épisode numéro 13.
Exactement. dernier épisode avant les vacances d'été. Les prochains épisodes seront ceux de l'été. Est-ce que nous serons 3? Franchement, je pense pas. Je vous le dis toute honnêteté, je pense vraiment pas qu'on sera 3. Ce sera peut-être Blaise et moi. Ou alors on trouvera quelqu'un d'autre. On va peut-être inviter quelqu'un qui travaille à la médiathèque pour être à nouveau 3. Voilà, c'est tout pour moi. L'épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et puis à bientôt.
Salut.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de Sauvegarde. Et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder.